Bonsoir, vous êtes bien sur RFI. C'est l'heure du journal, il est 4h du matin à Nairobi, une heure de moins ici à Paris.
Théo Renaudon.
À la une de l'actualité internationale, quelle responsabilité ont les réseaux sociaux dans les contenus qu'ils diffusent? Au Kenya, la justice se déclare compétente pour poursuivre le géant américain Meta, Facebook, accusé d'avoir propagé des messages de haine pendant la guerre au Tigré. Les bourses dans le rouge toute la journée, les investisseurs sont anxieux. Après les annonces de Donald Trump de ce mercredi, les États-Unis vont taxer l'essentiel des produits importés sur le territoire. Et puis, la Hongrie se retire de la Cour pénale internationale, le tout pendant une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui-même sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. Au Kenya, la haute cour de Nairobi vient de déclarer la justice kenyane compétente pour poursuivre le géant américain Meta. Meta qui regroupe WhatsApp, Instagram ou encore Facebook. L'affaire remonte à 2022. Deux ressortissants éthiopiens ont porté plainte contre le réseau social Facebook. Ils accusent le groupe américain d'avoir propagé des messages de haine durant la guerre du Tigré. Meta a tenté de se soustraire à la justice kenyane, estimant qu'elle n'était pas compétente pour juger le géant américain. Gaël Lalex.
Pour Abraham Mereg, l'un des plaignants, le soulagement est immense. Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, doit s'imaginer que la justice commence et finit aux frontières américaines. Mais les vies africaines comptent, commente-t-il à l'issue de l'audience. Abraham a perdu son père en 2021. Ce professeur de chimie à l'université de Bahardar, dans le nord-ouest de l'Éthiopie, a été assassiné après que son adresse a été publiée sur Facebook, accompagnée de commentaires haineux. Fitzéa Teklé, autre plaignant, est chercheur pour Amnesty International. Durant la guerre du Tigré, sa vie tourne au cauchemar quand il se retrouve victime d'une campagne de menaces sur les réseaux sociaux. Meta est mortel. Son algorithme valorise la violence, commente Rosa Curling, directrice exécutive de l'organisation Foxglove qui accompagne les parties civiles. Elle rappelle que le géant américain n'est pas au-dessus des lois africaines. Les parties civiles demandent qu'un fonds de dédommagement pour les victimes de haine sur Facebook soit créé et abondé d'au moins 2,5 milliards de dollars. Elles demandent également la modification de l'algorithme du réseau social ainsi que des efforts supplémentaires pour sa modération. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
C'est le champion de toute catégorie des droits de douane imposé par Donald Trump à l'essentiel des pays du monde, le Lesotho, petit royaume totalement enclavé en Afrique du Sud. Il est visé par des droits de douane de 50%, les plus élevés pour une seule et même nation. Cela pose de graves problèmes au pays. Ses richesses dépendent principalement des exportations vers les États-Unis, surtout des exportations de jeans. Donald Trump accuse le Lesotho d'être l'un des pires contrevenants avec des droits de douane élevés sur les produits importés américains. Le royaume envoie immédiatement une délégation aux États-Unis pour négocier. L'Union européenne, elle, écope de 20% de droits de douane. Décision grave, infondée, commente le chef d'État français Emmanuel Macron, qui souhaite une réplique rapide, notamment sur l'aluminium et l'acier. La France n'est pourtant pas le plus gros exportateur de l'UE vers les États-Unis, mais certains produits, certains secteurs pourraient être fortement touchés, comme le secteur agricole, Romain Lemaresquier.
C'est un secteur déjà mal en point et dont certaines branches ont déjà été très impactées ces derniers mois. Le secteur agricole français, et plus particulièrement celui qui concerne les vins et spiritueux, subit de plein fouet les évolutions géopolitiques, détaille la députée européenne Céline Imard, sachant que c'est l'un de ceux qui génèrent le plus de revenus en matière d'exportation.
Aujourd'hui, on a déjà des secteurs exportateurs qui sont en grande fragilité, notamment sur les vins et spiritueux, dus en fait aux réactions de la Chine, puisque l'Europe a imposé en fait des taxes sur les batteries électriques subventionnées qui viennent de Chine, et en mesure de rétorsion immédiate, la Chine a pris des sanctions extrêmement drastiques sur ces produits-là.
Avec des exportations vers les États-Unis qui représentent 8,7% des produits exportés outre-Atlantique pour un montant de près de 4 milliards d'euros, la hausse des droits de douane pourrait bien être fatale à cette filière. Céline Imard.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient se passer? C'est qu'on a des secteurs qui sont déjà fragilisés par un manque de compétitivité chez nous, trop de normes, une situation instable, et maintenant vont s'ajouter les rétorsions côté États-Unis, donc droits de douane supplémentaires, qui peuvent vraiment être le dernier clou du cercueil de ces secteurs.
Céline Imard, à l'image d'autres députés députés européens espèrent que la Commission européenne parviendra à négocier une baisse de ses droits de douane avec Washington. Mais si d'aventure cette solution n'est pas viable, elle plaide pour engager un bras de fer avec les États-Unis et la mise en place de mesures réciproques. Romain Lemarski, Strasbourg, RFI.
Il y a les conséquences que l'on craint et celles qui sont déjà bien réelles. Bourse, dollars, pétrole en chute libre. Après le coup de massue des hausses des droits de douane américains annoncées ce mercredi par Donald Trump, Wall Street a vu rouge ces dernières heures. Le Nasdaq recule de quasi 5%, le Dow Jones de moins 3%. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, les investisseurs sont anxieux, moins 3% pour Paris, qui signe sa pire séance depuis 2023. Dans le même temps, les valeurs dites refuges, comme l'or, connaît des sommets, symptômes d'une situation économique mondiale en peine. Le responsable de tout ça, Donald Trump, lui, prédit un bond des marchés à venir, sans autre élément énoncé. 31 morts dans un bombardement israélien à Gaza, selon les secours. Une bombe a touché une école où s'étaient réfugiés des déplacés de guerre. Israël a qualifié l'endroit de poste de commandement du Hamas. Benjamin Netanyahou, lui, est en Hongrie pour une visite officielle de 3 jours jusqu'à dimanche matin. Le premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt par de la Cour pénale internationale pour des soupçons de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Alors que le premier ministre israélien descendait de son avion, le premier ministre qui l'a invité, Viktor Orban, a annoncé que son pays, la Hongrie, se retirait de la Cour pénale internationale, dont d'ailleurs la Hongrie est pourtant un membre fondateur, Florence Labrouillère.
En recevant en grande pompe le Premier ministre israélien, le gouvernement de Viktor Orban bravait déjà la Cour pénale internationale. Il va encore plus loin en claquant la porte de la CPI. Ce n'est pas très surprenant, car le gouvernement hongrois avait déjà dénoncé à plusieurs reprises une institution qu'il jugeait politiquement biaisée. Et en novembre dernier, Viktor Orban avait vivement critiqué le mandat d'arrêt émis contre Netanyahou. Orban avait assuré que le Premier ministre israélien ne serait pas arrêté s'il venait en Hongrie. Mais ce qui a sans doute conduit la Hongrie à franchir un pas de plus, c'est l'attitude de Donald Trump. Dès son retour à la Maison-Blanche, le président américain a dénigré la Cour pénale internationale et a même imposé des sanctions contre la juridiction. Or, Viktor Orban s'inspire de Donald Trump. Et pour s'attirer les bonnes grâces du président américain, Orban marche dans son sillage. La Hongrie a donc décidé de quitter la CPI. C'est aussi un geste envers le Premier ministre israélien qui a présenté le Premier ministre hongrois au président américain. Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
En France, procès hors normes ce jeudi matin dans une petite ville. Procès qui oppose une famille d'éleveurs de chevaux à un géant industriel de la chimie, Bayer Monsanto. La mère de famille, qui élevait des chevaux enceintes, a utilisé un herbicide en 2006. Résultat, l'enfant né souffre de malformations. Aux États-Unis, le groupe Monsanto a été condamné à plusieurs reprises pour des cas de cancer, mais c'est la première fois que l'industriel est attaqué pour des malformations. Igor Strauss.
Pour Sabine, la mère de Théo, c'est presque la fin d'un cauchemar.
Contente que ça soit fini, quoi. Bon, voilà, on s'attendait, hein, à de la mauvaise foi en face. Il y a eu des moments, ça a été vraiment très raide.
La mauvaise foi, selon Sabine, c'est le fait que Monsanto se dédouane de toute faute. Pour la compagnie, c'est la marque Nova Jardin, fabricante de l'herbicide Glipper, qui est responsable, bien que Monsanto ait fourni le glyphosate permettant la fabrication de ce produit. Maître Bretzner.
Nous sommes heureux d'avoir eu l'opportunité de dire un certain nombre de choses qui contribueront, espérons-le, à supprimer peut-être ce que l'on peut appeler quelques préjugés. Préjugés relatifs à la dangerosité de la substance qui est étudiée depuis 40 ans. Préjugés relatifs à Monsanto.
Maître Repold, qui défend la famille Grataloup, a une toute autre lecture des faits. Pour lui, la responsabilité de Monsanto est avérée.
Monsanto Agriculture, en août 1995, a attesté qu'elle fournissait le glyphosate pour la composition du Glipper. C'est une attestation signée par Monsanto Agriculture qui a été ensuite absorbée, je le répète, par Monsanto et qui doit aujourd'hui répondre des défauts du glyphosate qui composait le Glipper.
C'est maintenant à la Cour d'examiner les faits. Le verdict est attendu pour le 31 juillet. Igor Strauss, Vienne, RFI.
Trop meurtrier pour porter un nom, l'Organisation Météorologique Internationale retire ses noms d'ouragans Barry, Milton, John et Hélène qui ont fait des ravages en 2024 dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Leurs dernières incarnations ont été trop destructrices. Ils sont normalement réutilisés tous les 6 ans. Ça ne sera plus le cas. C'est un hommage à leurs victimes. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Vous et moi, on se retrouve dans 50 minutes pour un nouveau journal.